Bonjour mes frères et sœurs. Je vais faire une lecture dans le chapitre 6 de Romains. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Évidemment, est-ce que vous ignorez ça? En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libre du péché. Seigneur Jésus, je te prie, afin que tu me donnes une langue exercée, que je sois clair, pour que mes frères et sœurs qui sont dans le trouble puissent être éclairés et ainsi fortifiés dans ta grâce. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible est claire. Si nous sommes morts en Christ, nous ne péchons pas. Celui qui est mort est libre du péché. Ça soulève beaucoup de questions. Mais je pense que la principale, c'est êtes-vous mort? Êtes-vous mort en Christ? Pour ma part, humblement, je déclare que je suis mort en Christ. Et je suis né de nouveau en Christ. Vous, je ne sais pas, mais vous le savez, si vous êtes mort en Christ et si vous êtes né de nouveau. Il se peut que vous soyez dans une position que vous ignorez. L'ignorance, c'est un mal terrible. À cause de l'ignorance, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Où sont donc les serviteurs fidèles qui donnent une nourriture convenable aux brebis? C'est ce que Luc chapitre 12, c'est Jésus qui parle comme ça et qui dit dans Luc chapitre 12 quelque chose de terrible au sujet de ses serviteurs, versets 42 à 48, et il dit quelque chose de formidable. Le Seigneur dit: quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Notre travail, à nous autres, ministres du Seigneur, c'est de vous enseigner, de vous apporter la parole de Christ, de Dieu, pour que vous puissiez parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et les serviteurs de Dieu qui le font fidèlement sont heureux. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne. Nous sommes comme des hommes qui attendent que notre maître revienne. On attend son retour, mais on ne s'attend pas dans la dilettante, en ne faisant rien ou en enseignant des fables ou que sais-je. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui enseignent des fables et qui n'enseignent pas la vérité, et qui tiennent les gens dans l'ignorance, exprès même. Certains le font exprès, afin de pouvoir mieux dominer sur eux. Paul s'adressait là aux disciples qui vivaient à Rome. Ok, mais ce qu'il dit là, il nous le dit à nous aussi. Nous sommes autant chrétiens que ceux qui étaient du temps de l'apôtre Paul l'étaient. Il leur dit: ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, qui avons été immergés en lui, C'est dans sa mort que nous avons été immergés. L'ignorez-vous? Est-ce que vous ignorez ça? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous en avez mesuré les profondeurs de ces choses? Pourquoi est-ce que il l'ignorait? Pourquoi est-ce que vous l'ignoreriez? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que les serviteurs de Dieu chargés d'enseigner n'enseignent pas ces choses. La deuxième, c'est que peut-être vous ne lisez pas votre Bible avec un esprit de révélation. Et la dernière, c'est, enfin la dernière à mon avis, il y en a peut-être encore d'autres, c'est que comme il vous arrive de pécher chaque jour, vous évitez de méditer sur ces textes parce que ces textes vous semblent accusateurs. En effet, ces textes disent que ceux qui sont morts en Christ ne pêchent pas. Et vous, vous pêchez tous les jours. Moi, je pêche tous les jours. Alors, est-ce que je suis mort en Christ, oui ou non? Il vous arrive de pécher, ça vous trouble. Puisque la Bible dit, c'est écrit, celui qui est mort en Christ ne pêche pas. Alors, que faire avec ça? Alors, beaucoup ont plus ou moins consciemment décidé d'éviter tous les versets qui parlent de ça. Comme par exemple, 1 Jean 4:6, c'est un texte terrible, il dit, ceux qui demeurent en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne pêchent pas. Ça continue en disant, si quelqu'un pêche, c'est qu'il n'a pas vu Jésus et ne l'a pas connu. Alors, comme il vous arrive de pécher, ben vous évitez de lire ce texte-là, ou 1 Jean 4:8 qui dit « Celui qui pratique le péché est du diable. » Alors, comme il vous arrive de pécher, vous vous dites « Oh là là, je suis du diable. » Alors, bon, il y a plusieurs solutions. Soit on l'abandonne parce qu'on se dit « C'est perdu, c'est foutu, je suis du diable. » Ou alors on évite de lire ces textes, puis on lit d'autres choses. Des textes un peu plus gentils, parce que ceux-là nous paraissent accusateurs. Et puis quand on lit 1 Jean 4:8, c'est bien, mais quand on lit le verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu est en vous. » Et voilà, ces versets vous condamnent, me condamnent, enfin, du moins en apparence. Il y a plus. Ces versets vous font douter de l'authenticité du message de la Bible, parce que le même apôtre qui dit ça, là, qui écrit ça, Jean, dans la même lettre, au chapitre 1, et verset 10, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité, c'est-à-dire Jésus, n'est pas en nous. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de tout mal. » 1 Jean 1:9. Alors d'un côté, un chrétien né de nouveau ne peut pas pécher, ne pêche pas. Et puis de l'autre, nous péchons et nous avons à le reconnaître. Est-ce que la Bible se contredit? Est-ce que l'apôtre Jean se contredit dans sa propre lettre? Il semble que oui. Mais non, elle ne se contredit pas. C'est juste qu'il y a quelque chose que nous ignorons, qui ne nous a pas été enseigné ou que nous n'avons pas bien compris. Peut-être cela vous a été bien enseigné dans votre église, puis vous ne l'avez pas compris. Maintenant, avez-vous le désir de savoir? Avez-vous le désir de comprendre? Je pense que oui. Sinon, vous ne seriez pas venu sur Révélation Bible. Il faut que vous sachiez. Vous ne devez pas rester dans l'ignorance à ce sujet. Alors, 4 choses. 1. Vous êtes mort en Christ à la croix. 2. Vous êtes ressuscité avec lui. 3. Vous êtes en lui et lui, il est en vous. 4. En Christ, il n'y a pas de péché. Ça, c'est 1 Jean 4:5 qui nous dit qu'en Christ, il n'y a pas de péché. Vous le savez, Jésus est paru pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ça, c'est ce qui est écrit là, hein. Donc Jésus est pur, et quand vous êtes en lui, est-ce que ça ne le souille pas? Si, étant en lui, vous péchez, alors à ce moment-là, il n'est plus pur. Vous comprenez, vous suivez? Jésus est pur, et quand vous êtes en lui, il ne devient pas souillé, il ne devient pas impur parce que vous êtes en lui. Pourquoi? Parce que avant de vous accepter en lui, il a enlevé vos péchés. Vous êtes pur. Maintenant, est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul était pur? Il dit, je ne prétends pas avoir atteint la perfection. Philippiens 3:12. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que Paul était comme vous et comme moi, un pécheur pardonné. Il n'était pas pur, il n'avait pas atteint la perfection. Tout apôtre Paul qu'il était, il n'était pas plus. Il était comme vous, il était comme moi. Il reconnaissait qu'il péchait, ça lui arrivait. Il était un pécheur pardonné qui marchait, c'est-à-dire qui allait de l'avant, c'est-à-dire qui progressait, qui oubliait ce qui était en passé, qu'il avait confessé à Dieu, et qui se sanctifiait, qui marchait de sanctification en sanctification, en s'efforçant de tenir les membres vivants qui sont là, sur cette terre, les membres de sa chair, son corps, il les maintenait dans la mort, c'est-à-dire leur interdisant de faire leur volonté. Notre corps a des désirs, des volontés, des exigences, et nous avons à le maîtriser. Il marchait, il allait de l'avant, il progressait, il se sanctifiait, il ne s'arrêtait pas. Après avoir péché, parce que l'apôtre Paul péchait, comme vous, comme moi, et eh bien, après avoir péché, il ne s'arrêtait pas au bord du chemin dans la désespérance, parce qu'il avait un savoir. Et il dit, est-ce que vous ignorez que... Il ne faut pas que vous ignorez. Il dit en réalité, écoutez bien, c'est très fort. Il dit, en réalité, ce n'est pas moi qui agis ainsi, c'est-à-dire qui pêche. C'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais ça. Oh là là. Mes frères et sœurs, ne nous voilons pas la face, ne vous voilez pas la face, ne jouez pas au super saint, ne condamnez pas ceux que vous voyez en train de pécher. Il n'y a personne qui est parfait, à part Jésus. Alors vous êtes en Christ aussi pur qu'on puisse l'être, vous êtes pur parce que Jésus vous a purifié, et s'il vous arrive de pécher, la Sainte Bible nous dit que vous avez à en parler à Dieu ouvertement, à confesser votre péché, à dire votre péché, pas à le supplier pour être pardonné. Vous êtes déjà pardonné et vous êtes déjà pur. Mais il veut que vous le confessiez, il veut que vous disiez votre péché. Et il dit, Dieu est fidèle pour vous pardonner et vous purifier de ça. Et puis vous continuez à marcher, vous continuez à aller de l'avant, en comptant sur l'aide et sur la force du Saint-Esprit. Vous ne dites pas, bon, ok, puisque c'est comme ça, je peux persister à pécher afin que la grâce se multiplie. Ça c'est Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc, hein? On a lu au début. Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Puisque la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors allons-y, péchons, comme ça la grâce de Dieu va surabonder. Non, il faudrait être tordu pour penser comme ça. Il le dit, certainement pas. Nous n'allons pas persister dans le péché afin que la grâce se multiplie, certainement pas. Comment nous qui sommes nés de nouveau pourrions-nous continuer à vivre dans le péché? Celui qui dit, puisque je suis gracié, je peux me permettre de pécher. Non, c'est de la malhonnêteté, ça révèle le cœur de la personne. Vous êtes honnête. Seul un esprit tordu peut penser et raisonner comme ça. À se dire, puisque quand je pêche, la grâce de Dieu surabonde, alors allons-y, pêchons. Mais il y avait des gens déjà du temps de l'apôtre Paul qui pensaient comme ça, et il y a encore des chrétiens qui pensent comme ça. aujourd'hui, enfin les chrétiens. Vous haïssez le péché qui agit en vous et par vous, vous le haïssez. Et vous tentez de le maîtriser de toutes vos forces avec le secours du Saint-Esprit. C'est ça notre boulot, travailler avec crainte et tremblement à votre salut. N'est-ce pas ça, n'est-ce pas? C'est ça que nous faisons. Ça veut bien dire que nous ne sommes pas sans péché puisque nous avons à travailler à notre salut, c'est-à-dire à nous sanctifier, à nous mettre à part. Bien sûr que Jésus nous a déjà purifiés, mais le péché habite encore dans notre corps. On va y venir. Question. Comment se fait-il que le péché habite en moi? On va lire Romains 8, 11 à 15. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Romains 8, 11 à 15. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu qui est en vous, si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez, vous les faites mourir. C'est à vous que ça revient, c'est vous qui faites ça. C'est vous qui vous sanctifiez, vous faites mourir les manières d'agir du corps, avec ses exigences. Vous dites non. Et puis ça arrive que des fois vous dites non, puis vous le faites quand même. Alors il faut confesser à Dieu, dire à Dieu. Et il continue. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Vous voyez? Et il dit que nous avons une dette envers Dieu. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Être sérieux. Marcher selon l'esprit et non selon la chair mortelle qui est habitée par le péché. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? Dans le même chapitre 8, Paul dit que notre chair mortelle, notre corps, n'a pas encore été racheté. Romains 8, 23. Je vais vous le lire, c'est dans le même chapitre. Ce n'est pas la nature seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, l'avenir glorieux que nous aurons lorsque nous serons débarrassés de notre corps. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, virgule, la rédemption de notre corps. Le mot rédemption, ça veut dire rachat. Dans d'autres versions, c'est écrit « la libération de notre corps ». Notre corps, il n'est pas encore libre. Il a encore ses exigences, le péché est dedans. Il n'a pas été racheté, pas encore. Nous attendons, nous soupirons après le moment où notre corps sera racheté, c'est-à-dire lorsque nous serons libérés de ce corps de chair. C'est votre corps, c'est votre chair, c'est là qu'habite le péché et c'est lui qui pêche le péché en vous. Qui pêche le péché? Pas vous. C'est ce que Paul dit. Vous, la nouvelle créature que vous êtes, est pure. C'est une nouvelle créature. Elle ne peut pas pécher, cette nouvelle créature, car la semence de Dieu est en vous. Elle est dans la nouvelle créature que vous êtes en Jésus-Christ. Par contre, votre chair mortelle doit être assujettie et bridée par vous. Votre chair mortelle, votre corps, ce n'est pas vous. Ou plutôt, c'est votre nature humaine. Comme il dit là, votre nature propre, votre nature humaine. Vous, vous êtes en Christ, racheté à la croix. Votre dette est payée une fois pour toutes. Vos péchés ont été pardonnés. Vous êtes pur. Et vous ne pouvez pas pécher. C'est ce que nous disons dans les Écritures. Mais vous avez une dette envers Dieu, un prix à payer. Vous ne devez rien à votre corps, vous devez l'assujettir, mais vous avez une dette envers Dieu. Votre travail est de maîtriser votre chair dans laquelle habite encore le péché. Parce que votre chair, votre corps n'a pas encore été racheté. Il ne sera racheté qu'après votre mort, quand vous serez libéré de votre corps mortel. Voilà le mystère du péché qui est dévoilé. Vous n'êtes plus ignorant. Dès maintenant, vous savez. Allez-vous croire? Allez-vous avoir la foi? Vous allez me dire, attends, Michel, c'est un peu nouveau pour moi. Bon, voilà, c'est bien, nous vivons au 21e siècle, c'est enregistré, vous pouvez l'écouter autant de fois, prendre les notes autant de fois que vous voulez, relire les textes autant de fois dont vous avez besoin pour pouvoir avoir cette certitude. Comme Paul, vous direz, quand je pêche, c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi qui fait ça. Vous n'êtes plus ignorant de ça, vous savez. Alors, si vous pêchez, qui pêche? Moi j'aime la réponse de l'apôtre Paul, elle est claire, il dit c'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Que dois-je faire en cas de péché? Le dire à Dieu, le confesser, lui en parler. Comme un fils qui va voir son père puis qui lui dit « Papa, j'ai fait une bêtise, je t'ai piqué 10 euros dans ton portefeuille, hein, je suis vraiment désolé, je vais tout faire pour essayer d'arranger ça, mais voilà, je vais te le dire, je veux pas avoir de cachette avec toi, je veux que tout soit clair entre nous. » Ça demande beaucoup d'humilité, hein, mais parce que c'est peut-être récurrent, vous faites ça peut-être souvent, et puis voilà, vous avez tellement honte d'aller vous confesser. Il faut le faire, faites-le. Et il ne faut plus céder à la chair. Il faut marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon les injonctions de l'esprit, selon la loi morale donnée par Dieu. Selon la loi morale donnée par Dieu. Pas la loi des sacrifices, d'aller tuer un animal ou des machins comme ça, c'est pas de cette loi-là dont on parle, c'est la loi morale. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, toutes les fornications et tous les machins, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc., etc. Ne plus céder à la chair, c'est ça marcher selon l'esprit. C'est marcher selon les lois données par l'esprit, par Dieu. Faisant chaque jour des progrès. Est-ce que c'est clair? Il y a une grande confusion dans le cœur de beaucoup de chrétiens à cause de l'ignorance, parce qu'on leur prêche un évangile tronqué. On vous dit, depuis que vous êtes en Christ, toutes choses sont nouvelles. On va le lire, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, question, qu'est-ce qui est devenu nouveau? Toutes choses. C'est-à-dire qu'avant d'être réconciliés avec Dieu, nous étions esclaves du péché et nous ne le sommes plus. C'est ça qui est nouveau. Il nous a libérés. Jésus nous a libérés de la loi du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire que s'il n'y avait pas de loi, ben, il n'y aurait pas de péché. Si la loi disait, s'il n'y avait pas une loi qui disait ne mens pas, ben, il y aurait, personne pourrait nous condamner. Mentir, ce serait pas interdit. Donc, quand on le fait, il n'y aurait pas de transgression. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. C'est par la loi que le péché rentre. C'est Paul aussi qui l'a dit. Parce que le péché, c'est la désobéissance à la loi. Deuxièmement, Jésus a détruit en lui-même, à la croix, l'acte rédigé contre nous. Je vais vous le lire, mon avis, pour que vous soyez certains que c'est bien vrai. C'est dans Colossiens 2, 14. Écoutez ça. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus a cloué la loi qui nous mettait en état de péché. Il a cloué cette ordonnance, cette loi. Il a cloué cette ordonnance qui était rédigée et qui nous condamnait par ses prescriptions. Tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras pas ci. Et nous, on tombe dedans, on pêche et tout. Il a pris cet acte légal et il l'a cloué à la croix, l'offrant en spectacle pour que tout le monde le voit. Et ainsi, il nous a pardonné toutes nos fautes. Sa mort à la croix, c'est un acte légal. C'est un acte légal plus fort que la loi de Moïse, qui était légale, mais il l'a clouée à la croix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi, donc il n'y a plus de péché. Il l'a clouée à la croix, la loi. Le péché a pris vie en nous, par la connaissance de la loi, comme je vous disais, alors en détruisant l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions, tu feras pas ci, tu feras pas ça, Jésus nous a déclaré, nous a délivré de la loi du péché, parce que la loi, c'est la loi du péché. Ah. Nous sommes graciés, et étant graciés, nous vivons sous une autre loi. Non plus sous la loi qui nous condamnait, mais sous la loi parfaite, la loi de liberté, Jacques 1, 25, que nous pouvons observer parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous pouvons dire non quand le péché qui habite notre corps sollicite et commence à réclamer à grands cris et des exigences, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il faut que je... Vous avez le pouvoir de dire non. Nous ne sommes pas sans loi. Nous sommes avec une loi parfaite pour des créatures parfaites, rendues parfaites par Jésus. On va lire Jacques, chapitre 1, verset 25... Jacques, chapitre 1, verset 25. Il y a tellement de choses dans ma Bible que j'ai même de la peine à trouver tonton Jacques. Mais je vais le trouver, on va le trouver. Un peu de patience. Alors, où est-ce qu'il se cache? Ah, c'est pas possible. Voilà, Jacques 1, 25. Jacques 1, 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Hein, juste avant, c'est mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de Christ, la loi de la grâce, la loi de la liberté, et qui a persévéré à observer cette loi de liberté, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, celui qui n'a pas ignoré ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, qui se sanctifie, qui fait attention, qui dit non en face de la tentation, celui-là sera heureux dans ses activités. Vous voyez, nous ne sommes pas sans loi, nous avons une loi parfaite, pour des créatures parfaites, rendues parfaites par Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures vivant selon une autre loi que celle de Moïse. Bien sûr que c'est la même chose dans le sens, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, etc., etc. Mais la loi ne nous conduit pas au péché parce que maintenant nous avons le pouvoir par le Saint-Esprit qui est en nous de dire non. Chose que nous n'avions pas avant. Nous étions esclaves. De quoi ? Du péché. À cause de quoi ? De la loi. Maintenant nous sommes morts en Christ autant que la loi de Moïse est morte. Elle était crucifiée, clouée à la croix. Et nous pouvons vivre la loi de la grâce par l'Esprit qui nous en donne le pouvoir. Par contre, 1. Notre corps n'ayant pas encore été racheté, 2. Parce que nous vivons encore dans ce monde pourri, eh bien, il nous arrive que le péché se manifeste en nous, le péché qui habite notre chair, et notre chair a des exigences, des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et il arrive que notre chair, qui n'a pas encore été rachetée, cède au péché qui habite en elle, alors nous en parlons franchement à notre Père Céleste, et il nous pardonne, et il nous purifie. Donc nous continuons à être purs aux yeux de Dieu. Maintenant, si un frère nous accuse de péché, eh bien, il fait l'œuvre du diable. Parce que c'est pas vrai. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le péché qui est en moi. Ouais, mais c'est un peu facile, Michel. Ben, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je pense comme Paul pense. Je préfère. Un frère ou une sœur qui nous accuse de péché, il fait l'œuvre du diable qui est un accusateur. Ce frère qui nous accuse pêche. Mais en même temps, ça ne le rend pas impur. Ce qu'il faut, c'est qu'il confesse ce péché, puis qu'il essaie de réparer. Alors, que faire avec un frère qui vous accuse ? Ben, allez le trouver, parlez-lui. S'il ne vous écoute pas, allez lui parler avec quelques anciens, des gens sérieux de l'Église. S'il ne l'écoute toujours pas, ben, parlez-en à l'Église entière, et la Bible ne dit pas d'en parler sur YouTube, par exemple, mais à l'Église. La Bible ne dit pas qu'il y a des ministères de dénonciation, ça n'existe pas, ça c'est l'œuvre du diable. Sur YouTube, ah oui, mais le Saint-Esprit me pousse à dire, afin de vous protéger, que vous ne tombiez pas dans les griffes de l'ennemi et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de faire ça. C'est le Saint-Esprit qui nous montre le chemin, qui nous éclaire et qui nous conduit. On n'a pas besoin de ministère de dénonciation et de condamnation sur YouTube ou n'importe où. On n'a pas besoin de ça. C'est pas vrai, c'est faux, c'est des faux ministères, c'est diabolique. Et puis, s'ils veulent pas écouter l'Église, le frère qui a, ou la sœur qui vous accusez, s'ils veulent pas écouter l'Église, ben la Bible est claire. Excommuniez-le, c'est-à-dire n'ayez plus de communion avec lui. Plus de communion, point. Dieu va commencer à s'occuper de lui. Et il est terrible de tomber dans les mains de Dieu. Il se chargera de lui apprendre à vivre par l'esprit et non pas par la chair qui est habitée par le péché. Vous voyez ? il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Par contre, ceux qui sont en Christ peuvent être mal enseignés, ignorants, voire stupides. Et cela peut les rendre désespérés, ou même méchants. Vous ne condamnez pas. Le péché qui habite votre chair se manifeste, il se manifeste aussi chez votre frère, chez votre sœur, il y en a qui ont des poutres, il y en a qui ont des pailles, on a tous des trucs dans l'œil, il y en a tous un truc qui ne va pas. Mais soyez spirituels, vous qui m'écoutez là, n'attendez pas que l'autre soit spirituel, vous soyez spirituel. Si vos frères et vos sœurs ne le sont pas, ne les condamnez pas. Laissez Dieu agir. Ça peut prendre quelque temps, mais il agira pour leur apprendre à vivre. Maintenant, vous n'êtes pas tout seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Et Jésus a donné des ministres dans son Église. Ces derniers ont une prêtrise qui n'est pas celle des simples chrétiens. Les ministres de Dieu ont des pouvoirs qu'ils peuvent exercer. Si vous êtes dépassé par une situation, allez trouver un ministre de Dieu doté de la prêtrise supérieure à celle des simples chrétiens. Nous sommes tous prêtres, sacrificateurs devant Dieu. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, mais ceux qui ont un ministère, il y a quelque chose de spécial. C'est Dieu qui a institué ça. Ils pourront agir en votre faveur en exerçant une autorité spirituelle que vous n'avez pas, parce que eux sont chargés de garder et de protéger l'Église. Je ne blague pas, hein. Dieu est un Dieu d'ordre. Le corps de Christ n'est pas votre corps. Votre corps n'a pas été racheté. Par contre, le corps de Christ est la vraie Église. Et le corps de Christ est parfait. Ne vous privez pas des bienfaits que peut vous apporter l'Église dans vos combats. Oui, mais j'ai fréquenté l'Église, j'ai vu les églises, vous condamnez. Si c'est une église apostate, sortez du milieu d'eux. Mais je vous garantis, vous trouverez toujours un petit groupe de 2 ou 3 ou 5, 10 frères et sœurs qui vivent en communion fraternelle. C'est ça l'Église. Et Dieu suscite des ministères. Frères et sœurs, ne soyez pas ignorants de ces choses. Prenez ces choses. Je vous enseignerai davantage au sujet de ces choses, mais déjà aujourd'hui, je vous ai dit beaucoup, beaucoup. Alors prenez déjà ça, et puis réjouissez-vous dans la présence du Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes déjà purs. Amen. Merci Jésus pour cet enseignement que tu m'as donné d'apporter aujourd'hui. Veuillez aider mes frères et sœurs à bien comprendre ce que j'ai dit, à ne pas tordre ça par stupidité ou par je ne sais quoi, quel autre esprit, mais que chacun puisse bien comprendre et être fortifié suffisamment pour pouvoir aller fortifier les autres. Je te le demande, Père, dans le nom béni de Jésus. Amen. Au revoir.